Donc là, je vais m'intéresser un petit peu plus à l'histoire de ces musiques et essayer par le développement de cette histoire de montrer en quoi ça donne un regard que je trouve assez intéressant sur l'évolution de notre société. Je ne vais pas vous parler de longtemps avant le 19e siècle parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avant. C'était les danses de l'aristocratie. Donc on sait que le branle double, il y avait le branle double, le branle simple, il y avait des choses comme ça au niveau de l'aristocratie. Donc on imagine que ça se dansait aussi, mais on n'a pas forcément de traces vraiment précises. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, peu de moyens de communication, la journée de cheval était un petit peu la mesure du temps au niveau déplacement. Donc il y a des provinces très très enclavées, et c'est peut-être actuellement de ces provinces-là qui montrent une identité culturelle très marquée. Je pense à la Corse, je pense à la Bretagne, Massif central, des zones difficiles d'accès, difficiles au niveau des routes. En Bretagne, il n'y aura pas véritablement de réseau routier en 1850. La chose, donc des communautés très refermées sur elles-mêmes. La révolution industrielle va être un moment de mutation sociale assez, assez important, puisque ce que j'ai décrit tout à l'heure au niveau de la... Quand je parlais de la fonction sociale, cette notion de communauté très refermée, la communauté va commencer à s'ouvrir. Les rôles dans la société vont commencer à changer. Les sociétés populaires ne sont plus uniquement paysannes. Il commence à y avoir les sociétés ouvrières, une augmentation de la population. Donc le bourg devient village, le village devient ville. Une diversification des rôles. Et la musique traditionnelle commence à perdre un petit peu sa fonction fondatrice. Agrandissement des villes. Avant 1850, 1870, il n'y a pas de bal. On danse tous les jours, on chante tous les jours, mais il n'y a pas un bal tel qu'on l'entend. Tiens, je vais au bal. Avant, on n'allait pas au bal. Là, le fait que toute la population se diversifie, la danse, la musique traditionnelle reste important, mais se déplace, ça devient... ça évolue en fait d'une sorte de nécessité sociale à une société de loisirs, logique de loisirs. On va danser au bal, dans la salle de bal, dans la salle des fêtes. Au niveau du 19e siècle, il y a des phénomènes migratoires du fait de la mutation de la société qui sont importants pour la musique traditionnelle. Je pense notamment à toute la communauté auvergnate qui est allée à Paris, une communauté très importante, qui, elle, s'est complètement emparée de sa culture musicale et a vraiment une activité très très vive au niveau de Paris, beaucoup plus vive finalement que dans les campagnes d'Auvergne. Et finalement, c'est les immigrés qui ont permis de réalimenter, de garder vivace la musique dans les campagnes du Massif central. Les Auvergnats, ils ont aussi un rôle très important au niveau de la musique à cette époque, puisque ce sont des Auvergnats à Paris qui vont inventer la cabrette, qui va ensuite revenir en Auvergne. Mais les joueurs de cabrette à Paris vont rencontrer les accordonistes italiens. Et puis ça va créer un mouvement musical qui nous paraît presque traditionnel à l'heure actuelle, mais qui n'est pas forcément tant que ça, c'est le bal musette. Voilà, toute la tradition de musique musette vient en fait de cette rencontre entre différentes communautés d'immigrés à Paris. À cette époque-là, donc, on va à la guinguette. Il n'y a plus la logique de fonction sociale comme il y avait avant. Comme les réseaux routiers se sont multipliés, la communication aussi se multiplie. Des communications au niveau musique, c'est juste une histoire de situer, ça va être souvent le colporteur, des éléments comme ça. Fin du 19e siècle, il y a des danses assez incroyables qui sont inventées à Paris, des danses de couple. Alors ces danses ont des noms très exotiques, d'ailleurs beaucoup pensent actuellement que la mazurka vient de Pologne. C'est une invention parisienne, comme la polka, comme la valse, comme la scottish. Toutes ces danses viennent de Paris et de la fin du 19e. Première guerre mondiale. Donc une rupture à tous les points de vue de la société. Pendant 4 ans, absence des hommes, et il faut bien que ça tourne sans eux, donc la société se transforme. Très peu d'hommes vont rentrer, donc il y a vraiment une mutation en profondeur de la société et une perte très 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 nette au niveau de la tradition orale. Et en parallèle, les Américains sont arrivés avec leur musique, avec les musiques noires américaines, qui commencent à plaire de plus en plus. Donc un très très net ralentissement de la vie musicale traditionnelle. Ce sont encore les anciens qui jouent ça, qui dansent ça. Et puis les jeunes regardent les vieux danser ça, mais eux sont vraiment attirés par d'autres choses, quoi. Seconde guerre mondiale. À noter que pendant la Seconde Guerre mondiale, les bals étaient interdits. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les jeunes? Ils ont créé des bals clandestins. Donc partout en France, il y a eu des bals clandestins où les jeunes sont mis à redanser les danses traditionnelles des anciens. Le problème, c'est qu'il y a une rupture dans la manière de pratiquer, et que donc il y a eu au niveau musical comme au niveau de la danse, c'est plus tout à fait la même chose qui se faisait. Il y a déjà eu une grosse transformation à ce moment-là. Fin de la Seconde Guerre mondiale, alors là c'est plus juste une attirance pour les musiques noires américaines, c'est carrément l'explosion. Et puis on est toujours dans cette mouvance-là où une sorte de côté hypnotique par rapport à cette musique, que j'aime beaucoup par ailleurs. Et petite remarque, le blues, c'est ce que j'appelle moi une musique traditionnelle, issue en plus de deux mondes traditionnels, la musique blanche et la musique noire, qui se sont rencontrés sur le continent. Les musiciens traditionnels à cette époque se retrouvent vraiment au chômage technique, ça c'est quelque chose qui disparaît vraiment complètement. La musique trad existe encore, mais vraiment en tant que spectacle, vraiment dans une culture de loisirs, ça fait plus du tout partie intégrante de la vie des gens. Cette histoire, j'aimerais bien la retracer par rapport à l'histoire du collectage, parce que finalement, on ne peut savoir et comprendre cette musique que par les traces qu'on en a. Et on n'en a pas tant que ça. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, avant le 19e siècle, on n'en sait rien, la société rurale n'a strictement aucun intérêt à écrire ou à laisser des traces de ce qu'elle pratique, puisque la pratique, elle est quotidienne, qu'il n'y a aucune nécessité de témoigner de ce qui se pratique. Après, je pense que pas beaucoup savent lire et même écrire de la musique, donc pas de traces écrites. Au moment de la Révolution française, il va y avoir une volonté d'éradiquer un peu les cultures, les langues régionales, pour pouvoir libérer chaque citoyen. Et l'intérêt arrive vraiment au moment du 19e siècle. Cette prise de conscience par la bourgeoisie et l'aristocratie de l'existence d'une culture paysanne populaire. Le gros symbole de ça, c'est le mouvement des romantiques, avec Georges Sand à sa tête qui écrit des romans champêtres, dont Les Maîtres Sonneurs, qui retracent une histoire très romantique, mais où il y a des savoir qui elle va aimer entre les joueurs de cornemuse, mais elle décrit du coup tout ce système de joueurs professionnels. Cet intérêt est aussi lié à la mutation de la société qui est en train de se passer à la révolution industrielle. Donc les couches, ce sont vraiment les couches savantes de la société qui s'intéressent aux productions culturelles des sociétés rurales. Donc c'est un regard qui est très extérieur, qui est vraiment ethnomusicologique et qui est assez intéressé, puisque la logique c'est quand même de se dire tiens, il y a des choses bien, si on les prenait pour en faire quelque chose. C'est pas forcément un intérêt totalement gratuit. Mais il y a quand même cette thèse que le peuple peut aussi produire une culture qui a de la valeur. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très nouveau. Donc le ministère de la Culture, en 1852, avec M. Hippolyte Fortoul, va lancer les premières grandes collectes. On collecte plein de choses qui ne sont pas forcément très bien collectées, parce que les collecteurs viennent de la musique savante. Et ce que je vous ai dit sur la musique modale, tout ça, dans leur manière de transcrire ce qu'ils entendent, ils gomment tout ça, ils prennent ça pour des erreurs, et ils gomment tout ça. C'est intéressant, mais ça ne traduit pas forcément la réalité du propos musical. Mais ça permet quand même la mise en évidence d'une immense diversité des terroirs, des territoires et des cultures musicales. Ça prouve vraiment l'importance du rôle social de la danse dans la vie des paysans. Cette importance, c'est une sorte de garantie de la cohésion du groupe dans cette logique d'un mode de vie communautaire. À cette époque, il n'y a pas de place pour l'individu, ce qui a un petit peu évolué depuis. À la fin du 19e, donc mutation de la société rurale vers une société industrielle, ça bouleverse cet équilibre. Les instruments apparaissent à peu près dans le courant du 19e siècle. Avant, il n'y a vraiment pas de choses instrumentales. L'arrivée des instruments va complexifier la musique. La danse aussi va se compliquer, elle va se hiérarchiser. On n'est plus un groupe dans un cercle fermé. Il va y avoir une hiérarchisation des choses. Les premières collectes sonores datent de 1913, une campagne menée par le ministère, menée par Ferdinand Bruno, qui a été dans certaines régions de France. Alors le problème, c'est que c'est fait sur des galettes de cire, on n'est pas très sûr de la vitesse entre l'exécution du morceau, ce qui a été enregistré. Donc je voulais vous faire écouter une bourrée extrêmement connue et encore extrêmement jouée actuellement. La bourrée de la chatte, une bourrée de temps. La qualité sonore n'est pas forcément énorme, mais c'est quand même super intéressant. J'en reviens à mon histoire du collectage. Donc, Première Guerre mondiale marque également une rupture dans le collectage. Ça ne fait pas partie forcément des grandes priorités. Mais la période d'entre-deux-guerres et la Seconde Guerre mondiale vont poser la question de la visée politique du collectage. Pourquoi est-ce qu'on collecte ? Quel intérêt ? Donc, 1936, le Front populaire, il y a un projet culturel de donner les moyens pour que chaque citoyen accède à la culture. Il s'agit vraiment de valoriser la culture populaire. Donc, il y a deux grands courants dans ce projet. Plein de dispositifs en faveur de la collecte. Il faut vraiment collecter pour garder en vie tout ce pan de la culture orale. Et également une logique d'obligation de la transmission à la jeunesse de tout ça. D'où les chorales dans les écoles qui apparaissent à ce moment-là. En 1937, donc toujours dans le Front populaire, il y a la création du Musée national des ATP, des arts et traditions populaires, ce qui est devenu le MUCEM à Marseille, là, qui a ouvert ses portes il y a 2 ans. Pour pouvoir transmettre cette culture, on favorise aussi l'émergence des groupes folkloriques, qui ont une mission de scénariser la vie rurale pour montrer à quel point c'était beau et à quel point c'était fantastique. Le problème, c'est que ça va mener à une sorte de caricature des cultures régionales, et musicalement, c'est pas forcément réaliste, on va dire. On est en costume, on est tous souriants et heureux d'être paysans, et on joue une musique qui... Voilà, il y a même une tranche de jambon, hein, parce que là, c'est l'Auvergne. Voilà, c'est vraiment très, très caricatural, et je trouve que toutes ces 33 tours... Alors, il n'y a pas la date dessus, je ne sais pas quand ça date. Je pense que c'est plutôt des années 70, mais c'est vraiment dans la veine, dans cet esprit-là, des groupes folkloriques qui, finalement, ont peut-être un petit peu dénaturé, quelque part, le propos. On continue dans cette logique de spectacle, hein, c'est vraiment... La musique est devenue un spectacle... La musique et danse sont complètement hors de la société. Ils se donnent juste à voir, à regarder. C'est quelque chose qui est vraiment séparé de la société. Par rapport à la visée politique, gouvernement de Vichy, amplification des collectes, même ligne d'action, mais vraiment pour une logique complètement inverse. L'objectif de Vichy, c'est de sublimer les cultures et les régions telles qu'elles existaient sous l'Ancien Régime. L'objectif, c'est vraiment de sublimer la notion de patrie, l'intérêt pour la culture populaire est quand même très idéologisée. Cette période des deux guerres mondiales marque véritablement la fin du milieu traditionnel dans lequel se transmettaient les danses et les musiques. Il y a quand même une certaine survivance dans la mémoire collective, mais on se rend compte que c'est totalement laissé actuellement au répertoire enfantin. Voilà, donc les enfants apprennent des chants qui sont, si on décrypte les paroles, pas du tout pour les enfants. C'est souvent très très cru, très sanguinolent, enfin vraiment pas du tout pour les enfants, mais c'est vraiment, voilà. Quand on parle musique traditionnelle, on pense chant traditionnel ou danse traditionnelle enfantine. Par rapport au collectage, il y a un autre phénomène très très important dans les années 60-70. Il y a le mouvement folk qui naît aux États-Unis avec les Bob Dylan, John Baez et compagnie. Et donc ce phénomène arrive en France. On appelle ça à l'époque du revivalisme. Il y a un élan de collectage phénoménal. Donc plein de jeunes érudits et savants formés de manière très théorique à la musique qui vont se lancer dans des campagnes incroyables de collectage. Il y a un côté pas hystérique, mais presque, où voilà, il faut collecter, collecter, collecter. Le problème, c'est qu'ils se retrouvent face à des gens qui sont très âgés, qui ne se souviennent pas forcément de ce qu'ils pratiquaient 30 ans avant et qui n'ont pas pratiqué pendant 30 ans. Parce qu'il y a vraiment une rupture totale pendant plusieurs décennies. Si vous voulez vous aventurer à écouter des collectages, on entend souvent, ça se passe souvent dans la cuisine, on entend l'horloge, et puis bah, y a la femme qui fait « Mais si, tu sais, tu jouais ça, ah oui !» puis qui ne se souvient plus forcément. C'est un phénomène qui a été très important parce que ça a permis quand même de sauver des choses. Ça a sauvé énormément de choses. Ces derniers temps, je m'intéresse beaucoup au Massif Central. Il y a un vivier incroyable au niveau des violoneux dans le Massif Central, mais ce ne sont que des bribes. Et aussi bien dans le Massif Central, on a réussi à sauvegarder pas mal de choses. Le Dauphiné, par exemple, a peut-être intéressé moins de gens, et il n'y a pas tant de choses que ça. Il y a des choses, hein, mais ce qu'on a, ce sont vraiment des bribes. En parallèle, tous ces collecteurs, on les retrouve tous dans les grands groupes folk des années 70, La Galoche, Malicorne, etc. Des noms qui doivent sûrement vous dire quelque chose. Ils sont tout le temps liés à des collecteurs. Dans chaque groupe, il y a tout le temps... Alors, Malicorne, non. C'est l'exception. Mais sinon, voilà, c'est souvent liés à toutes ces personnes, ces collecteurs. Alors pour le Massif central, il y aura des gens comme Olivier Durif, Jean-Pierre Chamval, Christian Lair, pour le Dauphiné, Patrick Mazelier, Jean-Pierre Simonet, c'est des, voilà, c'est des personnes assez importantes qui ont actuellement, au niveau de l'âge, qui ont à peu près 70 ans. Alors, je voulais vous faire écouter quelques collectages, juste pour que vous vous rendez compte. Je n'ai pas choisi si vous ne vous souvenez plus. Donc, par exemple, une bourrée, un petit chant. Donc ça, c'est un chant qui a été collecté par Sylvette Béraud-Williams en Ardèche.
La nuit passée, j'ai rêvé un dormant que ma maîtresse avait changé d'amant. Ah, je me suis levée et je m'en suis allée au-devant de sa porte pour la réveiller.
Alors, je change de piano, c'est un montage du cassette.
Mieux m'entendre que écouter la voix de votre serviteur.
Un autre. Quand je dis que je travaille à partir des collectages, souvent les gens ne comprennent pas de quoi je parle. C'est ça, je me dis, c'est important, juste que vous ayez une image sonore de ce que c'est qu'un collectage. Donc là, ça va être Jean Lamour qui va chanter. Alors là, il y a plusieurs violons, parce que les collecteurs, bah souvent, ils jouent avec. Et ça aide au niveau de la mémoire. Donc souvent, dans les collectages, on entend... Là, ils sont plusieurs. Il y a les collecteurs qui se sont mis aussi avec leurs violons. Et puis juste, c'est pour le plaisir, un exemple d'un groupe... voilà, je vous ai mis un petit morceau de Malicorne pour avoir une idée de ce qui s'est fait après avec tout ça. Cette période du revivalisme, il y a plein d'instruments aussi qui sont redécouverts et repopularisés. Je pense à la vielle à roue, à l'épinette des Vosges, des choses un petit peu bizarres. Et ça, c'est quand même à une assez large échelle, des choses qui étaient complètement disparues. Donc ce mouvement revivaliste, aussi bien au niveau de la collecte que de l'énergie de tous ces groupes folk, bah, sauf quand même de la disparition totale, un peu entier de la culture populaire rurale. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose... d'assez fondamental. C'est quand même un moment, c'était moins une, quoi. Il y a encore des collectages actuellement. Là, je sais que je voulais parler de Patrick Mazelier, qui a beaucoup collecté Massif Central et Dauphiné. Enfin, c'est un grand collecteur dans le Dauphiné qui a mené un mouvement de collecte en 2012-2013 sur le plateau Ardéchois. Il a rencontré des musiciens, il a rencontré des anciens danseurs de bourrée, mais quelle valeur après ça peut avoir par rapport... Parce que là, la rupture, c'est vraiment dans des décennies assez importantes. Mais on constate quand même qu'il y a encore des gens qui dansent dans leur cuisine. Hein. Années 80-90, c'est une période très très creuse. La musique folk n'intéresse vraiment plus personne. C'est lié aux années 70 et on passe à autre chose, vive le rock. Et puis, dans les années 2000, j'ai quand même l'impression qu'il y a une sorte de regain d'intérêt pour les danses folk, pour le bal folk. Quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'avais 18 ans et les gens avaient tous 60, 70 ans autour de moi. Et là, je commence à me sentir vieille quand je vais au bal. Donc je me dis, super, il se passe quelque chose. Alors pourquoi il se passe quelque chose? Je pose la question, je n'ai pas forcément la réponse. Alors la pratique actuelle au niveau du bal, c'est plus forcément des musiques telles que je vous les ai présentées. J'appelle ça souvent on appelle ça souvent du néo-trad. Il y a un métissage qui peut être au sens large, parce qu'on va mélanger des cultures de France, d'Europe, du monde, pour faire une mazurka salsa ou des choses. Enfin, je dis mazurka salsa, il y a un côté salsa dans la mazurka. Je vais conclure. Pour moi, c'est une musique que je trouve assez incroyable par sa richesse et par sa dimension. Il y a vraiment une identité qui est très marquée et qui, moi, personnellement, me fascine. Il y a des éléments musicaux précis. Ce que je viens de vous raconter, c'est quoi ? C'est une musique traditionnelle qui témoigne d'une société solidaire qui n'existe plus. Je vous ai parlé d'un monde fini. Les musiques sont-elles finies en même temps ? Souvent, j'ai des discussions, mais pourquoi t'appelles pas ça musique folk ? Pourquoi t'appelles ça musique trad ? Parce que pour moi, musique folk, c'est vraiment le mouvement des années 70 et qui est beaucoup plus large que le bal folk. Pour moi, c'est vraiment apparenté aux années 70, à tous les morceaux qui se sont repopularisés à cette époque-là. Et je trouve que s'appuyer sur les années 70, quelque part, c'est nier ce qu'il y a eu avant. Donc moi, ça me gêne parce que j'ai l'impression qu'il manque quelque chose dans cette appellation. On pourrait appeler ça musique populaire, mais actuellement, les musiques populaires, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, moi, ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression de pratiquer une musique qui est devenue savante, alors que ça, à l'origine, c'est vraiment une musique du peuple, quoi. Mais c'est que la pratique, écouter les collectages, écouter ces choses-là, j'ai l'impression de faire partie presque d'une secte d'initiés. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec pour faire danser les gens? Et quand on... Moi, ce que je pratique, c'est ce que je vous ai joué là. J'essaie vraiment de... Pour varier le morceau, je ne vais pas imaginer le super truc incroyable. Je vais plutôt voir, tiens, un tel il le joue comme ça, un tel il le joue comme ça, et puis prendre un petit peu tout ça. Donc je ne suis pas créatrice, j'essaie juste de récupérer tout ça. Et quand je joue ça en bal, les gens trouvent qu'on fait vraiment des compos super originales, quoi. Voilà, donc pour conclure, je pose une question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça ?
Pas le temps de vous amuser demain. Si dans un monde je m'en irai, prenez-nous le temps de vous amuser. C'est dans un an je m'en irai, prenez-nous le temps de vous amuser.
Amusez-vous belle, amusez-vous bien, vous n'aurez pas le temps de vous amuser demain.
Amusez-vous belle, amusez-vous bien, vous n'aurez pas le temps de vous amuser demain.
C'était Nathalie Bielakoff dans le cadre de l'Université populaire du Royaume.